Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Doop Culture. On est ravis de vous retrouver en ce dimanche matin, moi-même et mon acolyte Théophile Homesser. Aujourd'hui, vous connaissez le principe. Doop Culture, nouvel épisode, nouvelle thématique. Vous retrouvez sur la chaîne YouTube Basket Session si vous voulez voir nos ganachas et si vous voulez juste entendre nos voix de velours. À ce moment-là, vous vous connectez sur les plateformes de streaming. Comment ça va, Théo?
Ça va très bien, Pierre. Je sais pas, tu vas faire fuir les gens là, en disant qu'ils vont voir nos têtes s'ils viennent sur YouTube. Là, je pense que c'est pas la meilleure accroche possible. Il faut dire qu'il y a, je sais pas, des cheerleaders, des James Bond girls, qu'il y a des posters de Usher derrière toi, des trucs plus aguichants, quoi.
Madame Joachim Noah sera présente d'ici une vingtaine de minutes, donc restez bien, bien calés sur le podcast. On vous dit pas sur quelle fenêtre elle va arriver, mais elle sera là. En exclusivité américaine, comme on disait à l'époque.
À l'époque, oui, ça.
À l'époque. en star américaine. Vedette américaine, même, on aurait pu dire. On a une thématique, on va continuer à faire écho à ce cher Gilbert Arena. Il y a quelques semaines, on avait parlé, la semaine dernière, on avait parlé des histoires des Européens. Du coup, on avait fait une thématique sur les Européens. Il continue de nous inspirer, ce bon vieux Gilbert, puisque on s'est rendu compte qu'on l'écoutait beaucoup par sa plateforme et qu'à travers sa plateforme, on a maintenant une visibilité médiatique tout autre. On est les premiers à en témoigner, bien sûr, chez Rivers, puisque depuis l'année dernière, le CQFR qui est là, maintenant vous nous voyez, vous nous entendez beaucoup plus qu'avant, le média qui évolue en permanence, et nous on avait un petit peu envie de revenir dans nos souvenirs de grands moments de médias, de grands moments de direct peut-être, de grandes phrases d'accroche, de grands commentateurs, de voix qui nous ont marqués, de visages qui nous ont marqués également, et donc Madame Joachim Noah, Laïs Ribeiro viendra nous parler de ses expériences. Restez bien, bien avec nous. Donc on va parler de ça et puis on élargira bien sûr avec nos coups de cœur, coups de gueule et reliques de la semaine. Vous connaissez maintenant le principe, Théo, le média qui a évolué. Tu es le premier à en témoigner justement avec l'aventure Rivers, évolution du magazine au MOOC, mais maintenant avec des podcasts et avec une image omniprésente.
Oui, c'est ça. C'est vrai que ce qui est toujours assez incroyable, je trouve, pour on va pas faire les vieux, mais pour des gens de notre génération, en fait, c'est de voir à quel point maintenant le basket est omniprésent. Je suis obligé de resituer un petit peu. Nous, on a grandi dans un univers où le basket, c'était même pas un sport de niche, c'était une culture alternative, quasiment au même titre que le skateboard, que le hip-hop, que tout un tas de mouvements culturels qui étaient pas du tout mis en avant. On se battait pour avoir des cassettes de match, comme on a déjà parlé à plusieurs reprises. On les regardait, re-regardait, on se les passait un petit peu sous le manteau. C'était le sentiment d'appartenir à une communauté secrète où tu te reconnaissais. Tu voyais un mec dans la rue qui avait soit des Nike pour jouer au basket, soit une paire de marques encore plus rares, genre des Avia ou des trucs comme ça. Tu disais, ah bah lui, ça va être un basketteur, je peux aller lui parler. Maintenant, bien entendu, on n'en est plus du tout là, ce qui est une énorme chance d'avoir vu ce sport exploser d'un point de vue médiatique. Et forcément, il y a des gens qui nous ont marqué. Je pense, Pierre, toi et moi, que ça soit dans la presse écrite, que ça soit des commentateurs, et puis au fur et à mesure que ça s'est développé, il y a de nouvelles voix qui se font entendre. Comme tu le disais, nous avec Rivers, c'était les podcasts. Alors c'est assez paradoxal parce que finalement on a pris le train un peu tard, alors que vraiment c'est un secteur, moi c'est un médium en tout cas qui m'a passionné dès le départ. Il y a même les premiers que j'écoutais, je pense c'était il y a plus de 15 ans maintenant, les premiers de Bill Simmons du côté basket ou un podcast sur le hip-hop que j'adorais, dont on reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Juan Epstein. Et finalement, c'est mis un petit peu tard parce qu'on était déjà dans une problématique de le temps qu'on a, il faut qu'il soit rentable en termes de production. Il y avait pas de, on n'avait pas imaginé effectivement qu'il y aurait un effet, que ça prendrait autant en fait les podcasts, que ça marcherait aussi bien. Moi, ça reste l'un des médiums que j'aime le plus parce que comme on le fait dans Hoop Culture ou comme on peut le faire avec Chaï et Antoine, c'est un moment où on peut prendre le temps de développer. On n'est pas obligé d'être sur des arguments, c'est tout blanc, tout noir, manichéen. On peut vraiment développer ses idées sans s'interrompre, se crier dessus les uns les autres toutes les deux secondes. Et ce développement, ça a permis à de nouvelles voix finalement d'émerger. Alors soit des passionnés qui par leur leur perspicacité, par leur talent ont pu émerger, ou comme tu le disais dans le cas de Gilbert Arenas, finalement d'anciens joueurs ou des joueurs actuels, même maintenant ça se fait beaucoup plus, qui trouvent le moyen de commenter, de parler, de donner des insights un petit peu sur leur perception des choses. Moi j'en suis ravi en fait. J'ai l'impression que aujourd'hui j'ai sans doute jamais autant consommé de médias basket de toute ma vie, parce que tout simplement avant je consommais tout ce qu'il y avait, et ce qu'il y avait c'était très peu. Maintenant limite tu es obligé de faire le tri tellement il y a de choix, tellement il y a de choix.
Ah ben surtout avec les réseaux sociaux, hein. En plus, aujourd'hui, si vous n'avez pas vu, je pense, le dunk d'Anthony Edwards, c'est que ben, vous étiez soit en panne de réseau, soit vraiment à la ramasse complet. Mais voilà, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de certaines choses. On a des médias qui sont ultra drôles, qui font des mèmes en permanence et qui ont une manière de traiter le sujet beaucoup plus humoristique, en enlevant ce côté sérieux et en disant ce qui nous intéresse tous, c'est qu'à la fin de la journée, c'est que du sport, et c'est ça qui nous plaît beaucoup aussi, même si parfois il y a certaines choses qui se passent au sein de la ligue ou en dehors qui sont beaucoup plus graves et qu'on pointe également des problèmes de mœurs, des problèmes, les histoires qu'il y avait eu avec Jamorant, avec les joueurs de Hornets, etc. Mais on se retrouve aujourd'hui avec, alors abreuvé, on n'en a jamais assez. Je suis un petit peu comme toi, j'ai pas l'impression que c'est trop finalement, parce qu'on en profite bien. Et alors peut-être que la jeune génération, elle, se rend pas compte, mais pour nous, c'est un tel bonheur d'être en permanence connecté à ça, de voir les inside de match, de voir les joueurs qui arrivent dans les couloirs, de voir toutes les images de vestiaire. Mais on n'avait pas accès à ces trucs-là. Et quand on voyait une conférence de presse, d'ailleurs on va en parler, les rares conférences de presse qu'on voyait, on s'en rappelle encore, tu vois. Donc c'est voilà ce qu'on avait envie un petit peu de brosser, de voir avec vous. Et n'hésitez pas, alors si vous connaissez vous des médias, notamment sur des comptes Instagram, sur la sphère, sur le web, n'hésitez pas à nous dire, parce que ça peut être passionnant, et nous on est toujours preneurs de nouvelles influences.
Non mais c'est exactement ça, et pour montrer un petit peu à quel point ça n'a plus rien à voir quelque part. Moi, j'ai commencé en étant stagiaire, en travaillant dans un hebdomadaire de basket qui s'appelait Basket News. Avant d'y être stagiaire, j'étais lecteur. C'était donc un hebdo, ça sortait toutes les semaines. Et dans chaque Basket News, il y avait l'intégralité de tous les box scores NBA de la semaine. Et moi, j'étais là chaque semaine à le recevoir et à regarder, reprendre les box scores un par un pour voir qui avait performé. Et je regardais finalement les résultats de matchs qui avaient eu lieu une semaine auparavant, parce qu'on n'avait pas accès systématiquement à toute l'information ou toute l'information en détail. Notamment, je me rappelle que j'aimais beaucoup Elton Brand. Je regardais pour voir combien il avait fait de double-double dans la semaine, parce que c'était une vraie machine. Et voilà, maintenant, c'est inimaginable, je pense. L'information, elle est instantanée, limite... C'est peut-être, on va pas forcément aller jusque là-dedans, mais il y a l'aspect limite inverse où maintenant tout est tellement dans l'instantané que tu peux avoir l'impression d'avoir tout raté si dans l'heure qui suit l'action ou le match, t'as pas pris connaissance de l'information, tu l'as pas commenté. Voilà, ça c'est peut-être un petit peu le revers de la médaille, mais oui, l'accès à l'information, il est incroyable. Pour qu'on se lance sur le sujet, tu sais, Pierre Armand, ce qui est marrant, c'est que finalement, moi, longtemps, je ne m'étais pas rendu compte que je connaissais autant de choses sur le basket. C'est finalement en arrivant à la fac, en rencontrant d'autres passionnés de basket et en parlant avec eux, que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais pu lire ou entendre pendant toutes les années précédentes, eh ben, je les avais enregistrées, en fait, ces informations. Parce que, comme tu le disais, comme il y avait peu d'infos, chaque info était... avait une valeur, et il n'y avait pas comme Internet ou Google où tu dis, si j'ai oublié un truc, je tape dans Google et je vais le retrouver tout de suite. Fait que des informations même chiffrées, genre des moyennes de points de Jordan en playoff ou des trucs comme ça, c'est des infos en fait que j'avais mémorisées à mon insu et dont je me suis rendu compte plus tard, quoi. Et du coup, je suis curieux de te poser la question. Pierre Armand, toi, quand on parle d'apprendre le jeu, apprendre le basket ou apprendre des choses sur la NBA, qu'est-ce qui te vient, toi, dans ton parcours, qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite? Ça a été quoi tes premières sources d'informations?
Bon, on va les citer parce qu'ils sont un peu précurseurs et pionniers, ces 5 majeurs, bien sûr, parce qu'on avait un magazine qu'on apprenait par cœur, tout simplement, qu'on lisait 100 fois, qu'on lisait doucement, parce qu'il nous restait un mois à lire dessus, donc on lisait limite un paragraphe par paragraphe, un petit peu comme les gens découvrent le MOOC aujourd'hui. Et c'est peut-être, je fais une parenthèse, l'idée du MOOC était justement que dans cette furie et dans cette folie d'instantané et d'actualité, c'était ce que tu nous avais expliqué déjà de nombreuses reprises, ce besoin d'avoir aussi quelque chose d'intemporel sur une culture et expliquer pourquoi à un moment donné on était, ouais, comme tu dis, underground, quoi. C'est-à-dire c'était vraiment quelque chose de particulier. 5 majeurs, bien sûr, parce qu'on attendait la sortie de 5 majeurs comme on attendait la sortie du nouvel album de ton artiste préféré. Qu'on savait pas qui on allait retrouver dessus et que chaque mois on découvrait des choses parce qu'on n'avait pas accès, il n'y avait pas d'internet, il y avait très peu d'images ou alors il fallait être abonné à des chaînes payantes comme Eurosport, comme Canal et que du coup le mois d'après on allait apprendre, moi j'apprenais qui était Spud Webb ou Dominique Wilkins et puis le mois d'après qui était ce gars qu'on avait retrouvé dans un parking. Je me disais, mais tu te rends compte, on a retrouvé un gars dans un parking avec un fusil à côté de lui, dans le parking de sa salle. Et puis après, il y avait le vilain Jordan qui, je sais, parce que Magic, etc. Bon, c'était fascinant. Et puis c'était bien raconté en plus. Et puis on commençait à voir le phénomène des playgrounds. Et puis il y avait des pages sur les chaussures, sur les magasins de vente par correspondance où on voyait des maillots. Enfin bon, c'était. C'était un catalogue de Noël pour un enfant tous les mois, ce 5 majeur mondial basket, 5 majeurs, ils ont été un paquet parce qu'ils ont été nombreux à surfer sur la vague. Les 5 majeurs, je pense que dans la tête des gens, il y avait le poster. Tout le monde aujourd'hui de notre génération se rappelle du poster Grandeur Nature de Shaquille O'Neal dans 5 majeurs. Et j'ai vu l'autre jour, je l'ai feuilleté à la gare, parce que malheureusement, il n'y a plus de kiosque. Donc, si tu veux choper un journal, il faut aller à la gare. Il y a encore les posters. Il y a encore un vrai travail sur cette couverture en papier glacé, etc. Donc, moi, je les ai tous gardés de cette époque, mes 5 majeurs, parce que j'aime bien m'y replonger. C'était déjà bien documenté, il y avait de belles histoires, on sentait qu'il y avait une vraie connexion avec les États-Unis. Et puis on voyageait tout simplement, on avait l'impression d'être aux États-Unis. Et pourtant, moi, la première fois que j'ai lu 5 majeurs, encore une fois, j'avais raconté cette histoire, c'est parce que j'avais pas trouvé France Football, parce qu'il n'était pas en kiosque, ou il n'était pas encore arrivé. Et du coup, je m'étais rabattu là-dessus, un jour où je déjeunais dehors, un jour de lycée où je déjeunais dehors, et je m'étais plongé là-dedans, par hasard. Et j'avais trouvé ça génial parce qu'à la une, il y avait marqué Dream Team. Je trouvais que c'était joli. Et qui te rappelle, c'était cette photo. Ils étaient tous les 5, la future Dream Team. Donc, c'était voilà, c'est comme ça qu'on. Et puis, on apprenait à parler des choses de journalistes, des noms de journalistes qui revenaient, qui nous semblaient incroyables. Par exemple, j'ai lu, moi, des années, mais même, je ne sais pas, pratiquement 10 ou 15 ans après sa sortie. Par exemple, The Jordan Rules, le livre de Sam Smith ce nom Sam Smith nous a porté sur le nom de ce livre. C'était un peu les saintes écritures, tu avais l'impression. Et le jour où je suis allé à New York, je voulais absolument trouver l'édition anglaise, ce qui n'était pas facile à trouver ici. Et donc, je l'avais prise et je me suis plongé là-dedans. Et même si on connaît l'histoire, j'avais l'impression d'être dans le secret des secrets et de lire enfin quelque chose de découvrir un auteur incroyable, alors que, si je ne sais pas si vous avez lu, il y a eu des traductions françaises qui ont été faites, et notamment le dernier, il y a une dernière version là du dernier livre de Sam Smith qui était sorti sur Jordan. La traduction, elle fait moins rêver, parce que forcément, on avait cette envie de la VO aussi, qu'on voyait sur Eurosport, qu'on n'avait pas, parce que nous, on avait une voix à nous et rien qu'à nous, mais on va en parler bien sûr, tu vas nous en parler sûrement, mais qui nous a transporté aussi et franchement le jour où la voix de George Eddy s'éteindra, ce sera un petit peu comme quand on nous avait dit que Prince ou Michael Jackson ou sont partis, c'est-à-dire ce sera vraiment une partie de nous qui s'éteindra, je pense.
Ouais, bon, on va en parler hein, de Georges Eddy. De toute façon, c'est obligé. Juste, je voulais rajouter quelques références. Effectivement, bah, 5 majeurs. D'ailleurs, on leur passe le bonjour. Ils continuent. Ils sont toujours en
Sûr,
place aujourd'hui, comme tu le
bien
disais.
sûr.
Vu la difficulté des métiers de la presse, faut leur tirer le chapeau hein, d'avoir eu cette longévité, d'avoir continué à garder le cap. Forcément, il y avait aussi, voilà, avant, il y avait eu les Sports Action Basket. Il y a eu Basket Hebdo qui est devenu Basket News, qui est aujourd'hui devenu Basket Le Mag, même si l'équipe a pas mal changé entre-temps. Il y a eu Maxi Basket qui a été voilà l'une des revues aussi qui traitait pas que le basket américain, qui était aussi sur le basket français, européen. Il y a tout un tas de presse de qualité en France. Il y a le travail fait par l'équipe au quotidien, bien entendu. Je passe le bonjour à Yann Onona notamment. Voilà, je vous encourage quand même, si vous êtes passionné de basket, à aller lire un petit peu aussi de presse écrite. C'est un autre travail finalement. Ça permet d'aller un peu plus au fond des choses, alors que ça soit dans le MOOC ou que ça soit avec d'autres magazines qui existent. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. Mais effectivement, il faut venir à parler de Georges Eddy, c'est inéluctable. Moi, finalement, tu sais, j'avais eu des magazines, j'étais pas abonné en fait. J'en avais un par-ci, un par-là. On voyait pas les matchs. Encore une fois, on avait au maximum un match par semaine à condition d'avoir Canal+. Tu vois, moi, il y a dû avoir une période de 3-4 mois où j'ai cru que j'étais fan de Karl Malone parce que j'avais lu un papier sur lui justement dans 5 majeurs, je pense. Puis avant de le voir jouer, je me dis, mais il est bizarre ce mec-là. Et finalement, après, c'est peut-être un des joueurs que j'ai le plus détesté par la suite. Mais ouais, Georges Eddy, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte à quel point Georges Eddy a été important dans le développement du basket en France. Et je parle pas simplement de sa qualité de consultant, en fait, de sa manière, voilà, avec ses phrases choc, son accent forcément inimitable, de sa manière, la manière de commenter les matchs. Mais moi, en fait, je me suis rendu compte après coup, en fait, qu'il avait fait en grande partie mon éducation culturelle sur le basket américain, qu'il y a
Sûr.
tout un tas de choses que je savais sur le basket américain que je devais directement à Georges Eddy, des choses que j'aurais pas eu l'occasion de savoir sur des joueurs des années 60. Tu vois, on savait que Oscar Robertson avait fait des saisons en triple-double, c'est par Georges Eddy qu'on savait ça, ou que Wilt Chamberlain avait fait ses stats incroyables, que Bill Russell se contentait pas de contrer mais de garder le ballon en jeu pour ensuite faire vivre la balle, que Jerry West avait été l'un des joueurs les plus importants et que c'était lui le logo NBA. Il y a tout un tas d'informations comme ça qui nous dispensaient semaine après semaine. Et au-delà de commenter le match, moi je pense réellement en toute sincérité que Georges Eddy a été un enseignant de la culture basket du moins sur la culture basket sur le pan NBA en France. Et le travail qu'il a fait à cet égard, je pense que il est vraiment phénoménal. Je pèse mes mots. On peut, alors, comme on peut aimer ou non sa manière de commenter, mais sur ce qu'il a apporté vraiment à la culture basket en France, je pense pas qu'on en serait là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Georges Eddy, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu d'autres, il y a eu d'autres consultants de qualité, hein, ça je le nie pas, mais c'était vraiment une manne de savoir et de connaissances sans pareil, je pense, et il avait l'énorme avantage de lui avoir connu ça en direct, en fait, en ayant grandi aux États-Unis, quand il parlait de Wilt Chamberlain, il parlait de joueurs qu'il avait vu jouer, en fait, et ça avait une connotation qui était, je pense qu'on n'aurait pas trouvé de la même manière, même avec les excellents consultants français qu'on a pu avoir au fil des années. Voilà, puis à l'époque, c'était enfin, sur France 3, je sais pas, tu te rappelles peut-être, Pierre Armand, il y a Tony Parker Senior qui a
Bien
commenté
sûr.
les matchs à un moment, quand tu voyais Enfin, je jette pas la pierre à Tony Parker Senior, mais la différence de qualité de commentaires qu'il y avait entre l'équipe qu'il y avait sur France Télévisions et ce qu'on pouvait avoir, ce à quoi on pouvait avoir droit sur Canal, c'était le jour et la nuit, quoi. Il y avait des journalistes français qui commentaient le basket, qui connaissaient même pas les noms des joueurs, quoi. Qui allaient dire Jim, John Jackson au lieu de John Paxson, qui sortaient des aberrations totales. Sans Georges Eddy et le travail qu'a fait Canal, hein, parce que Canal l'a cru au projet fortement, je pense que le développement du basket en France n'aurait pas été le même.
Alors, au-delà de Georges, je crois que c'est même pas lui dont il faut parler au départ, c'est, tu as raison, c'est Charles Biétry en fait. Charles Biétry qui a cru à la NBA et qui a s'est dit que ça allait être intéressant. Il y a des si vous avez l'occasion de voir sur YouTube, peut-être de le rechercher, les premiers matchs commentés par Charles Biétry et Georges Eddy en même temps, puisque c'était Charles Biétry qui faisait le play-by-play et Georges Eddy qui était le consultant. C'est catastrophique, c'est nul, mais c'est, on sent le balbutiement. Mais c'était l'époque Canal où tout était possible. Charles Biétry, donc, qui a été un précurseur à bien des niveaux, et à beaucoup de niveaux, on en a parlé très récemment de Charles Biétry. Je ne sais pas si tu as vu, il a fait entendre sa voix sur le débat sur la fin de vie, puisque lui, il a organisé sa fin de vie. Hein, il est très malade, malheureusement, en Suisse. Et donc, il a fait valoir sa voix là-dessus. Mais Georges Eddy, en fait. Et tu vois, comme tu as raison de dire comment ça a façonné notre esprit. Par exemple, moi, j'ai grandi avec l'analyse de Georges Eddy, qui était une analyse qui n'était pas encore dans l'époque du tout statistique qu'est le sport US aujourd'hui et la NBA. Donc moi, j'ai encore du mal aujourd'hui à raisonner et à expliquer le jeu en termes de statistiques. C'est-à-dire de présenter un joueur en disant, il a fait. Je n'ai aucun souvenir de Georges Eddy te parler de Richard Dumas, par exemple, ou te parler de Gary Payton, ou te parler plus tard, parce qu'il n'a pas fait que les années 90, les années 2000, etc., de parler à un joueur en disant, parce qu'on n'avait pas vu des images de la saison régulière, ah, il a fait une super saison régulière, il était à 18 et 10, il a fait 4 triple-doubles, à un moment, il a fait un match, gros match. On s'en foutait. On s'en foutait. Lui, il nous racontait la NBA comme avec ses personnages, ses légendes, etc. Mais il nous racontait le côté humain de la chose et pas le côté informatisé de la chose. On n'avait pas encore, bon, il n'y avait pas tous ces bandeaux qui défilaient pendant les matchs. Il y avait le score qui n'était même pas toujours incrusté au départ. Donc après, il y a eu ça. Mais Georges Eddy, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui. Et moi, au-delà de Georges Eddy, c'est les annonceurs qui étaient avec lui. Bruno Poulain, c'est bien sûr Éric Bénard pour moi, les premières voix qu'on entend là-dessus, qui eux, grâce à Georges Eddy, découvrent aussi, ont la chance d'être là parce qu'ils parlent un petit peu anglais et ont vécu tout ça à travers Georges Eddy. C'est des types qui avaient ce talent d'annoncer, de commenter un match en direct avec la difficulté qu'on connaît, sans avoir une connaissance empirique de la NBA, de se laisser porter justement par l'enthousiasme et la voix de Georges Eddy. Mais bien sûr, aujourd'hui encore, je pense que et même à l'international, quand on montre le dunk de Vince Carter sur Fred Weiss, tu sais, quand on fait le fameux Heard Around the World, c'est souvent le commentaire de Georges Eddy qui ressort. Parce que voilà, le mec, il vivait son truc, comme aujourd'hui encore beaucoup de gens le vivent. Je pense à Stephen qu'on embrasse, à Stephen Moin, bien sûr, qui là encore, là, il n'y a pas longtemps, là, il a craqué en match, en fin de match, en disant merde, pas possible, il s'est énervé sur un match, je ne sais plus lequel, le Paris qui jouait. Donc voilà, cette fraîcheur-là, je pense qu'elle vient. Et personne ne te dira aujourd'hui que sur cette génération-là d'anciens joueurs, que Georges Eddy n'a pas eu une importance dans leur développement et dans le fait d'aimer le basket et de trouver ça mais tellement cool. Tellement cool. Comme tu dis, c'était pas cool d'écouter. Et respect, mais mille fois respect à eux sur leur carrière et sur le fait de se lancer. On sait combien c'est difficile de commenter un Richard Dakoury, à tous ces gens-là. Mais les gens vont dire, bah ouais, mais ça donne pas envie de regarder, ça. Alors, tandis que Georges Eddy, on trouvait ça, mais on avait l'impression d'avoir notre meilleur pote ou un super rappeur qui nous racontait, voilà, il nous racontait le basket. Il nous le faisait pas vivre, mais il nous le racontait.
Ouais, en fait, ce qui était fort, ce qu'il est toujours, hein, pour Georges, je trouve, c'est le côté arriver à te mettre. Il te parle comme si tu étais dans la confidence, donc il
C'est ça.
s'adresse à des gens qui connaissent le sport et en même temps il te donne des informations. Et moi-même, sur le jeu en lui-même, je reconnais, il y a des choses que j'ai apprises, tu vois, à force de regarder les matchs. J'ai beaucoup appris sur le basket en regardant les matchs et notamment grâce aux commentaires, tu vois, qu'est-ce qu'un bon tir, un mauvais tir. Il est en train de gérer l'horloge des 24 secondes. Là, il va jouer le 2 pour 1 parce qu'il reste 35 secondes, donc ils vont pouvoir avoir deux tirs alors que l'adversaire n'en aura qu'un. Il y a tout un tas de choses comme ça que moi, dans mon parcours de basketteur, amateur de petit niveau, jamais j'avais eu cette d'entraîneur qui avait eu à se pencher à ce point sur la stratégie avec nous pour nous enseigner ces choses qui sont, au bout du compte, réplicables dans tout un tas de scénarios et pas qu'au plus haut niveau. Et voilà, ou sur les aspects techniques. Et il a vraiment, vraiment très bien su gérer, je trouve, ce juste milieu entre faire animer, faire vivre le match, raconter les histoires, comme tu dis, pouvoir être accessible à tous et en même temps, pour ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu leur donner un complément d'information, aller un petit peu au-delà de ce qui est évident entre guillemets. Voilà, super boulot. Pareil avec l'équipe sur l'équipe de France, les campagnes avec son duo avec David Cosette était toujours vraiment hyper kiffant sur l'Euroleague ou sur l'équipe de France. Et puis maintenant, on a de la chance qu'il y en a plein. Je veux dire, il suffit de voir ce que fait Bein, tu vois, c'est top avec Rémi, Jacques Monclar, Xavier Vaution, tout ça, toute l'équipe. Maintenant, on est quelque part finalement. Georges Eddy, je pense, il a mis une espèce de barre. Il a mis le standard. Il a établi un standard pour le basket en France. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire du Georges Eddy pour faire du travail de qualité. C'est pas ça. Mais par contre, en termes de qualité, je pense que c'est lui qui a établi le standard auquel les autres sont. Alors peut-être un petit peu moins maintenant, hein, parce que finalement, ça fait un moment maintenant que la NBA est plus chez Canal+, mais pour les gens de notre génération, en tout cas, je pense qu'il y a toujours un petit peu cette comparaison, même si, voilà, comme je disais, ce que fait Bein depuis plus de 10 ans maintenant, ils ont trouvé leur personnalité, leur manière de fonctionner, de commenter, d'aborder le basket. Mais longtemps, voilà, ça a été le standard auquel tous les autres étaient comparés.
Oui, bien sûr. Allez voir le documentaire super qu'a fait Canal+ sur Georges Eddy. Je ne sais plus l'extraordinaire Monsieur Eddy ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on voit l'importance de la formation qu'il a eue, de fait de jouer en Europe. Et puis surtout de la fierté de voir l'internationalisation de la NBA et du basket en général. Le bonheur qu'il avait de commenter les Jeux Olympiques avec la NBA, c'était qu'au-delà de voir la Dream Team, il était content de voir la Dream Team face à la Croatie. Il était content de voir la Dream Team face à des grands joueurs qu'il allait pouvoir nous présenter. Les explosions de joie qu'il avait dans ses commentaires au JO tu parlais de Ginobili, etc. Et le fait d'avoir toujours dit, c'est ça qui était marrant, que c'était, pour lui, Tony Parker, c'est la réussite de la formation à la française à laquelle il est attaché. Mais il a le basket français chevillé au corps encore plus que des gars qui ont commencé à jouer au basket en France à l'âge de 3 ans. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est cet amour qu'il a. Et puis une connaissance empirique du basket mondial. Alors là, on n'est pas uniquement sur le basket américain, on est sur le basket mondial. Là, moi, je t'avoue que j'ai une connaissance, malheureusement, du basket européen qui dépasse à peine la queue d'une pâquerette. Mais et quand il raconte ça, moi, je rends ouvert, j'écoute. Voilà. J'aurais bien aimé qu'il fasse un vrai, alors pas podcast pour raconter les choses, mais parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens le font, mais et je crois que c'est un peu une cicatrice pour lui qu'il n'ait pas été par la jeune génération un peu plus, qu'ils l'ont pas pris avec eux, tu vois, comme tu dis, la mine barre, ils sont arrivés doucement, ils l'ont dépassé, mais ils n'ont pas dit allez hop, viens avec nous et tu seras toujours notre Saint-Père, tu vois, un petit peu ça finalement. Et je sais que ça a été un peu une fracture, mais bon, quelle legacy complètement folle.
C'est clair.
Il y en a d'autres, legacy sur beaucoup de choses, pas sur d'autres. Un commentateur, une voix qui, pareil, quand on a vu les premiers highlights de toi, des Bulls ou quoi que ce soit. Marv Albert, bien sûr. Une réputation un petit peu ternie par quelques petites allégations pas très 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 reluisantes. Mais bon, il fait ce qu'il veut avec la lingerie féminine. S'il me la met, la porter, se prendre en photo avec, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Mais il y avait des trucs pas terribles, hein, de violence, etc., qui ont été ramenés, de violence sexuelle. D'ailleurs, je crois qu'il avait pris une suspension de presque un an de la
je
part
pense,
de...
Ouais. Ouais, ouais, de c'était ça. Bien. C'était une époque où ce type de choses faisait pas forcément, ne barrait pas forcément la route d'une carrière professionnelle dans les médias à l'époque. Hein. Faut remettre dans le contexte, ça devait être les années 90, je pense, quelque chose comme ça. Donc,
c'est ça. Et ces voix, ces grandes voix du basket de finale, des baskets de play-off, qui sont malgré tout, parce que sinon ça voudrait dire que c'est des gens qui travaillent 2 mois par an, sont les voix d'équipes comme lui, il a été de 67 à 2004, la voix des New York Knicks. Et il est la voix de la NBA sur NBC. avec cette voix qu'on reconnaît tous, ce spectacular move by Michael Jordan. Il est devenu après la voix de TNT, donc c'est des gens qui continuaient. Il a commenté aussi la NFL, le basket universitaire. Il a reçu un nombre d'Emmy incroyable. C'est des Hall of Famers, parce qu'il y a un Hall of Fame des commentateurs et des journalistes aussi. Ça, c'est très important. Et ça, je trouve, c'est formidable, parce que comme tu dis, s'ils ne sont pas là pour nous donner envie de regarder et pour nous apprendre, on n'y est pas non plus. Donc voilà, Marv Albert, qui en plus écrivait aussi, en plus que de commenter, ça nous a accompagnés.
Ouais, carrément. Et puis moi, plus récemment, pour moi, le meilleur duo, en fait, notamment pour si vous êtes comme moi, écouter les matchs en VO parfois via le League Pass ou autre, le duo, moi, je pense que j'ai le plus aimé ces 10-15 dernières années du côté de la NBA, c'est le duo Mike Breen, Jeff Van Gundy. Alors le trio, c'était avec Mark Jackson en plus. J'étais pas fan de Mark Jackson, hein, je vous le cache pas. Par contre, Mike Breen, Jeff Van Gundy, pour moi, c'était vraiment le meilleur duo qui pouvait exister avec tout le fameux bang de Mike Breen, avec toutes ses anecdotes, parce que ça fait un moment aussi. Je crois qu'il a gagné à nouveau un Emmy cette année pour meilleur commentateur sportif, un truc comme ça fait 20 ou 25 ans qu'il fait ça. Et Jeff Van Gundy, c'est vraiment, je pense, le consultant que j'ai préféré écouter parce que les anecdotes, parce que tout son parcours d'entraîneur, sa subtilité dans les analyses, et un côté, moi, franchement, qui me faisait vraiment marrer, anticonformiste, à parfois jouer un peu la provoque, tu vois, que ce soit sur le flopping ou sur d'autres choses. C'est voilà, moi, c'est le duo que j'ai préféré. J'étais vraiment dégoûté cet été en apprenant qu'ESPN avait décidé pour faire des économies, de casser son contrat avec Jeff Van Gundy. J'étais désespéré. Franchement, il y a honnête, pour être super honnête avec toi, il y a parfois des matchs que je mettais sur le League Pass. Et quand je me rendais compte que c'était pas Mike Breen et Jeff Van Gundy, je disais, bon, bah, je vais regarder un autre match. Bah, celui-là, je le regarderai une prochaine fois. Je verrai cette équipe une autre fois. C'est alors que si je tombais sur eux, 80% de chances que je reste dessus. C'était vraiment voilà, le meilleur duo, même si c'était au sein d'un trio, vu que c'était avec Mark Jackson, mais leur entente, même quand Mark Jackson a repris le coaching, ils étaient restés juste tous les deux. C'était vraiment du bonheur. Là, je pense que c'est pas mal maintenant ce qui se passe avec. C'est JJ Redick qui a repris la place de. C'est Doc Rivers qui avait repris la place. Comme il est reparti coacher les Bucks, c'est JJ Redick qui a repris la place avec. Notamment, son nom m'échappe, tu vas m'aider, Pierre Armand. Une ancienne joueuse de UConn qui commente les matchs depuis longtemps déjà.
Ah, Doris Burke.
Doris Burke, merci. Voilà, donc c'est elle qui a repris le nouveau trio maintenant, c'est celui-ci, JJ Redick, Mike Breen et Doris Burke. C'est très bien aussi, vraiment, mais Jeff Van Gundy me manque. Je ne te cache pas.
Mike Breen. Déjà la voix des Knicks aussi, hein, un super duo avec Clyde, avec Walt Frazier, bien sûr. Moi, Mike Breen, c'est aussi c'est lui qui a commenté la Linsanity de A à Z,
Ah bah
qui a
oui.
vu le truc et qui raconte que c'est un de ses plus grands souvenirs, en tout cas en tant que commentateur des Knicks. Il commente la finale NBA depuis 2006, tu te rends compte? C'est Mike Breen, donc ça fait depuis la finale Miami-Dallas, donc ça va faire presque 20 ans de finale avec lui. Je pense que c'est plus que tous les autres. Un personnage, la gueule de l'Américain parfait, une gueule de président dans une série américaine.
C'est exactement ça.
Et puis des gars qui commentent la WNBA, qui commentent la NFL, qui font les JO, qui commentent les Jeux Olympiques dans divers sports également. C'est des types qui sont des génies du journalisme. Je crois que JJ Redick l'avait reçu il n'y a pas très longtemps, justement, pour qu'il explique la manière dont il prépare les matchs, ses rapports avec les joueurs pros, avec les médias, avec ses consultants, justement. C'est vrai que Mark Jackson, son hands down, man down, et Mama, there goes that man.
Sorti à peu près 350 fois par match, à
À
tous les matchs.
chaque coupure pub, donc 350 fois par match. Il fait le job. C'est quand il faisait ses petits chikayas avec Jeff Van Gundy, c'était plutôt marrant. Mais c'est vrai que Mike Breen, c'est aujourd'hui la voix incontournable. Et encore une petite parenthèse sur George Eddy, tu vois, tous ces mots, il a quand même pendant un moment voulu un peu franciser certains trucs, tu vois. Le passé va. Et puis quand il a commencé à dire le pick and roll, quand il a commencé à dire le fade away jump shot, quand il a commencé à dire le dunk au lieu de dire le smash, tu vois, des trucs comme ça nous a donné des clés de vocabulaire qui font qu'aujourd'hui, même si vous ne parlez pas bien anglais, vous regardez un match en VO, enfin, vous avez des notes qui vous reviennent de termes, ça arrive tout seul, ça arrive tout seul.
Carrément, on peut parler un peu de presse écrite peut-être, même si on reviendra sur
Bien
les
sûr.
commentaires. Après, moi, l'énorme claque, en fait, pour moi, ça a été la découverte de... Je les sors ici, j'en ai deux là sous la main, la découverte de Slam.
Bien sûr.
Voilà, Slam Magazine, là, très beau avec le Black Mamba, et puis ces deux que j'ai sous la main, et un très joli avec Jordan.
Et tu dis ça pour moi?
C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit en premier cette semaine. Non, mais donc Slam, voilà. Moi, j'ai découvert ça à la fac, en fait. On avait une équipe de basket à la fac hyper sympa avec des gens qui venaient de tous les horizons, notamment des étudiants en anglais. Et je place une dédicace à mon pote Olivier Richaume, qui avait passé lui un semestre déjà, ou une année complète même au lycée aux États-Unis, et qui était revenu avec la valise pleine de slam que je connaissais pas du tout. Et moi, ça a été une vraie révélation, parce qu'en fait, j'ai découvert une autre manière de parler du sport que celle que j'avais connue en France, avec des références qui étaient celles de ma génération, qui n'étaient pas des phrases un petit peu pompeuses, un peu rigides. Du moins, c'est comme ça que je voyais beaucoup parfois l'écriture dans le journalisme sportif en France, avec un ton libéré et aussi avec un talent qu'ont les Américains globalement dans le storytelling, en fait. Même pour te parler d'un joueur, pour te parler d'un match, pour parler de ce que tu veux, pour eux, c'est important que tu sois attrapé dans l'histoire, que tu as envie de lire l'histoire
Bien
finalement.
sûr.
Et moi, ça a été une vraie gifle. Et pas que pour moi, pour mes camarades Julien de Schuttner, Guillaume Laroche, et puis aussi Julien Deboeuf et Almami Souma, qui était au début de l'aventure Reverse. Je sais que pour eux aussi, ça a été une référence en termes d'écriture qui nous a marqué très profondément. Et je te l'avais déjà dit, Pierre, je crois, mais moi, l'une des plumes que j'ai préféré lire, c'était celle de Scoop Jackson, journaliste de Chicago. Et pour notre MOOC numéro 7 spécial Chicago, voilà, j'ai eu. Franchement, c'était un énorme kiff d'avoir pu avoir Scoop Jackson en interview, parce que c'est vraiment l'un des journalistes, l'une des plumes qui m'a le plus influencé. Alors parfois, il en faisait beaucoup. Après, même, on en rigolait entre nous. Et il avait aussi comment dire, une capacité à toujours se placer au centre de l'histoire qui
Ouais.
était assez, assez marrante. Mais par contre, en termes d'écriture, voilà, moi, ça m'a énormément influencé. Et c'est là, tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, en parlant avec mon pote Olivier, avec d'autres à la fac, je me suis rendu compte, finalement, j'avais cette connaissance du basket que j'avais emmagasinée à force de lire des trucs, à force d'écouter les matchs de basket. Et ça m'a donné qu'une envie, c'était d'en savoir plus. Et à partir du moment où j'ai découvert ça, c'est vraiment, tu sais, comme je te disais pour Wax Poetics, c'est le truc où je lisais de la première à la dernière page. Je ne sais même pas de quel type de musique ça parle, de qui est le musicien, mais parce que je sais que je vais apprendre des choses. J'ai fait pareil avec Slam pendant des années et des années. J'étais abonné. Et voilà, ça a été un petit peu. On parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera d'autre chose que le basket. Le magazine The Source, c'était la Bible du hip-hop. Pour moi, Slam, c'était la Bible du basket. Je lisais ça de A à Z sur les universitaires, les lycéens, les joueurs NBA, les légendes. J'ai énormément appris. Ça a vraiment été l'un des outils, avec des livres, bien sûr, qui m'ont permis d'étoffer ma connaissance du basket, notamment de la NBA.
Et puis, ça donne des clés, surtout à plein de niveaux. Alors, Slam, eux, je pense, ont largement contribué à l'arrivée de la culture hip-hop dans le basket, avec des intemporelles et légendaires, celle d'Allen Iverson, celle de Vince Carter, Kobe. Ce tellement ça, c'est une ode à la culture afro-américaine, de toute façon, Slam, depuis le début. Et puis, c'est un pont. Tu parles de The Source. Slam, c'est vraiment un pont entre le basket et justement cette culture-là. Je pense que dans Slam, on pourrait avoir une petite rubrique coupe culture que ça ne choquerait personne, tu vois, dans le sens où il s'ouvre à tout le monde en permanence. Si vous n'avez pas la possibilité si vous n'êtes pas abonné, alors je ne sais pas si tu peux avoir un abonnement international encore, mais à quel coût, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a l'appli vous pouvez vous abonner de manière numérique et vous recevez votre magazine tous les mois. D'ailleurs, je crois qu'il y a même plusieurs numéros. Il y a même des numéros Slam Kicks aussi, si vous êtes fan de
Complètement, ouais.
sneakers. Il y a souvent des magazines sneakers, des éditions spéciales, notamment des spéciales Jordan, des spéciales Nike, etc. Et c'est ultra bien documenté. Il y a Russ Bengston également qui parle de sneakers toujours là-dedans. Voilà, je crois que les headquarters sont à New York, il me semble. Ce serait. Le jour où on fera notre vlog Hoop Culture à New York, on est allé voir en premier, je pense. Mais voilà, c'est sûr que Slam Magazine, déjà rien que le nom est formidable et les unes sont toujours regardées, guettées, faire la une de Slam, je pense aujourd'hui encore pour un jeune, pour un joueur quel qu'il soit, c'est une consécration.
Ouais, et puis ils avaient ce côté, moi, ce qui m'a toujours plu et qui a toujours été finalement au cœur aussi de notre ADN avec Rivers, c'est d'avoir, tu sais, un œil braqué sur l'avenir. Donc, ils avaient des trucs sur les joueurs de lycée. La première fois que j'ai entendu parler vraiment de LeBron, c'était dans Slam,
Sûr.
avant que la hype commence à grimper. Et avoir un œil dans le rétroviseur et de parler de légende à l'ancienne. Donc, ce côté un petit peu, bah, on va regarder, essayer d'être un petit peu précurseur sur ce qui risque d'arriver, sur les tendances, ce qui va se passer, et en même temps garder un œil dans le rétroviseur pour vous donner bah, des aspects culturels, donner un contexte en fait, donner un contexte à ce qui va se passer par la suite. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Ils ont aussi été un petit peu assez précurseurs parce que très vite, ils ont été sur Internet. Le site, c'est toujours le même, je pense, Slamonline. .com et ils avaient une rubrique moi que je guettais chaque jour qui s'appelait The Links qui était gérée par Lang Whitaker qui maintenant bosse pour les Memphis Grizzlies et qui en plus d'écrire pardon dans le magazine gérait cette page et en fait il mettait des liens vers les articles les plus intéressants qui sortaient dans la presse locale et voilà et en fait tu vois c'est des choses que moi j'aurais pas eu ce réflexe d'aller regarder ce qu'on dit sur je sais pas sur les Kings dans le Sacramento Bee ou d'aller voir dans le Miami Herald, quel est le dernier article d'inside vraiment du beat writer, du mec qui suit le hit au jour le jour. Et moi, pour moi, c'était une source d'information incroyable parce que du coup, tu avais vraiment là, j'avais le sentiment d'aller à la source de l'information, vraiment d'aller chercher les informations auprès du journaliste qui connaissait le mieux telle ou telle équipe. Donc, ouais, Slam, vraiment un monument pour moi aussi dans ma culture basket. Là, c'est les deux numéros. Je pense que ma mère doit me détester. Il doit rester des cartons entiers de Slam quelque part chez elle. Qui doivent prendre la poussière, mais ouais, ça reste une des références ultimes pour moi.
Et puis faire la une de slam, j'en parlais tout à l'heure, mais quand Victor a fait la une de slam cette année avec le slam en bleu, blanc, rouge et les photos, je crois que c'est Kevin Coolio qui a pris les photos, la fierté quoi! La
Ouais,
fierté,
là.
c'était trop bien. Et d'ailleurs,
Et
quand
Pascal
il commence.
Gibernet, pardon. Et photo de Kevin Coolio, tu l'as dit. Et papier écrit par Pascal Gibernet, journaliste français qui a longtemps habité à New York, notamment aux États-Unis. Donc c'était vraiment une couverture franco-française, quoi. De Victor
Ah
plus
oui,
la
c'est ça.
photo plus l'article, c'était incroyable.
Ouais, c'est quand même, ça fait quand même. Alors, ils sont peut-être pas. Ouais, et quoique, est-ce qu'ils sont, parce qu'aujourd'hui avec Internet, est-ce qu'on peut encore être prescripteur au premier sens du terme? Mais voilà, abonnez-vous à Slam, regardez encore, lisez des trucs, parce que ça remet en contexte. En effet, ça donne des clés, ça permet de voir d'autres choses. Moi, je suis abonné là encore. J'ai repris mon abonnement et je le regarde avec toujours autant de plaisir, même si la fois, j'avoue, j'oublie d'ouvrir l'appli et du coup j'en ai deux trois de retard quand même là, c'est un peu cata. Je retourne sur les grands commentateurs. Toi qui nous parles en permanence de la ABA, il a été coach champion avec l'équipe de Kentucky. Est-ce que tu sais comment s'appelle l'équipe de Kentucky?
Les Colonels?
Les Colonels de Kentucky en 1975, deux fois coach de l'année, 78 en NBA et au début des années 2000. Hubie Brown, bien sûr, personnage incontournable, qui était avec Vernon Lundquist et Dick Stockton. Voilà, un personnage pareil, une sorte de John Madden de la NBA, quoi.
Et qui commande toujours. Parce que l'autre fois,
Comment tu
j'ai regardé un match cette semaine, justement, mais c'est encore Hubie Brown. Mais je sais même pas quel âge il a à ce point.
Il a
Il a
commenté en plus
80
pour les
passés.
Knicks, les Sixers et je sais plus qui d'autre à l'Est. Enfin, à Détroit, pour Détroit aussi.
C'est une carrière totalement folle. D'ailleurs, ce moment, parce qu'on parlait de Memphis qui avait relancé le. Tu sais, il était revenu au coaching quand Jerry West était GM des Grizzlies. C'est lui qui l'avait fait revenir pour coacher notamment Jason Williams, le White Chocolate, avec Pau Gasol. Et ils avaient fait une très belle saison, à la surprise générale. Parce que quand ça s'était passé, je me suis dit, non mais attends, tu mets le meneur le plus ingérable sur le terrain, en tout
Incontrôlable.
cas de toute la ligue, et tu le mets avec un coach à l'ancienne, ça peut pas marcher. Et ça avait très très bien fonctionné. Et je me rappelle qu'il y avait une bascule complètement folle où Jason Williams, en l'espace d'un an, était passé d'avoir le pire ratio passe décisive balle perdue à avoir le meilleur de toute la ligue en un an. Au contraire, ça avait incroyablement bien fonctionné tous les deux. Et ouais, c'est un plaisir d'entendre Hubie Brown, mais vraiment, c'est là, faut savourer, parce que je sais pas quel âge il a, le bonhomme.
114, je crois,
C'est ça.
au dernier pointage, au dernier recensement.
C'est ça, il était dans la classe, il était une classe en dessous de Greg Oden et de DeAndre Ayton.
Et Tom Brady.
Allez, ben,
Avec...
moi, je suis, enfin, comme tu le sais, moi, je suis énormément consommateur de podcasts. L'un des meilleurs podcasts pour moi, tout simplement, c'est celui animé par Zach Lowe, qui s'appelle The Lowe Post. Podcast qui date depuis un bon moment. Maintenant, ça va faire au moins une dizaine d'années. Je pense que voilà, si vous êtes vraiment intéressé par, alors si vous êtes un peu anglophile, parce que là, pour le coup, c'est en VO, et que vous voulez en savoir plus vraiment sur les aspects techniques un petit peu basket, là pour le coup on rentre dans les statistiques, hein, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Pierre Armand. C'est, je pense, un des meilleurs podcasts, une des émissions les plus pointues sur, si vous voulez décrypter un petit peu ce qui se passe réellement sur le terrain dans le basket. Moi j'aime beaucoup Zach Lowe, j'aime vraiment bien son positionnement. C'est quelqu'un vraiment de super intéressant. D'ailleurs, c'était à sa grande surprise, mais Kobe Bryant l'avait appelé un jour, du jour au lendemain, pour lui demander de venir regarder un match avec lui, pour comparer, pour voir un petit peu, parce qu'il se demandait, mais comment est-ce que Zach Lowe regarde un match? Il voulait savoir un petit peu ce qu'il regardait, comment il arrivait aux analyses auxquelles il arrivait. C'est pas pour dire que Kobe était jaloux de la connaissance basket de Zach Lowe, mais il avait eu à cœur de vouloir confronter un petit peu son coup d'œil à celui de Zach Lowe. Je trouve que voilà, c'est quand même un compliment assez rare venant d'un mec comme Kobe Bryant, qu'on sait à quel point il était passionné de jeu, à quel point il observait ça avec un œil critique. Donc ouais, voilà, je vous encourage à jeter une oreille à Zach Lowe. Je pense qu'on ne peut qu'apprendre des choses en écoutant ce podcast.
Tu parlais de Doris Burke tout à l'heure. Alors, je crois qu'elle est de Providence, Doris Burke. Je sais
Là,
plus
je me suis
si elle est
trompé,
de
c'est pas
Yukon.
UConn, t'as raison.
Peut-être, je sais plus
Ça devait
si
être avant
j'ai un doute.
l'hégémonie de UConn. Oui, non, tu as raison, je crois.
Peut-être. Super arrière à UConn. Enfin, à Providence, pardon. C'est
C'est
sur
moi qui t'ai
UConn,
mis dedans.
décidément.
Je dis des
Voilà.
bêtises et du coup tu les répètes.
Une des sidelines, une des reporteries sideline les plus respectées, les plus connues. Il y en a beaucoup, hein, aujourd'hui de sidelines féminines qui font un boulot super et qui sont un petit peu rentrées dans le quotidien des joueurs NBA et qui sont devenues limite des confidentes. On pense à Malika Arnauz, on pense à Taylor Rooks, bien sûr, qu'on voit beaucoup, même si je suis pas ultra fan de ce qu'elle peut faire. Mais Doris Burke, c'est, si vous la connaissez pas, si vous voyez pas, bah, c'est elle qui c'est sur lui que c'est sur elle que LeBron hurle Cleveland, this is for you, la pauvre. Elle est juste à côté, elle s'en prend, elle se fait arroser de postillons. Mais voilà, c'est ce genre de personnage-là, c'est-à-dire un Game 7 de finale NBA. Le match se termine, c'est elle qu'on envoie au front pour aller voir les joueurs. Et maintenant, en effet, elle est première ligne. Donc, c'est assez formidable. Elle commente aussi pour les Knicks. Alors, on va croire que tout le monde commente les Knicks. Et puis, voix de radio aussi, de télévision. Donc, voilà. La voix des Knicks pour la radio et pour la télévision, c'est ça.
Ouais, et d'ailleurs, elle va
Après la
commenter les
NBA.
finales avec JJ Redick et Mike Breen. C'était annoncé,
C'est
je crois,
ça.
la semaine dernière,
Ouais,
quelque chose comme
c'est
ça.
super. Voilà. Et je trouve qu'elle a un côté, même si elle a une voix, on s'attache nous beaucoup à la voix, mais elle a une voix assez monocorde, etc. Elle a une vision du jeu et ça arrive parfois quand il y a dans le feu de l'action quelque chose, un ballon perdu, ça repart, où elle dit oh, il s'est passé ça, là il y a eu ça, et quand on revient sur le ralenti, bon, elle avait tout vu, mais trois fois avant, Voilà, donc personnage éminemment attachant. Et si vous l'avez jamais vu une fois, je me rappelle, elle rentre sur le terrain en talon, elle a le micro dans la main. Je sais pas si tu vois, il y a un ballon qui arrive vers elle, elle te colle un petit dribble dans le dos en jupe serrée avec les talons où elle a failli tomber 3 fois, mais la maîtrise du ballon était assez impressionnante. Et tu avais tous les joueurs qui l'ont vu sur le bord du terrain qui étaient là, ah ouais, d'accord, qui la respectent énormément, énormément.
Non, mais elle est super, Doris Burke. D'ailleurs, je suis ravi, voilà, qu'elle ait pu accéder à ce poste-là. Effectivement, c'est Providence. Je suis allé vérifier. Belle culture basket. Puis, rarement, je sais pas si tu te rappelles, une fois, Drake était venu carrément avec un sweat sur laquelle il y avait à son effigie. Il était au premier rang
Oui,
avec
oui.
un sweat avec Doris Burke dessus. Donc, non, non, c'est une figure maintenant, pareil, incontournable de la NBA.
De NBA, exactement. Est-ce que pour toi, une question, est-ce que c'est un petit peu la suite parfois espérée par certains anciens joueurs d'être consultants, d'être. Alors, il y en a, on les voit tout de suite coach. On se dit, oh, bah, dès qu'il aura fini, il sera entraîneur, ça c'est sûr. Et puis à d'autres, on se dit, on aimerait bien qu'il fasse de la télé, il sera consultant. Tu préfères un bon consultant joueur ou un bon consultant entraîneur?
Ah, bonne question, ça. C'est. Alors, attends. Faut que j'y réfléchisse. C'est vraiment une bonne question. Je sais pas si j'ai une préférence pour l'un ou pour l'autre. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes traits de caractère que j'apprécie chez ceux que j'apprécie. Je trouve que chez les consultants, tu sens. Alors, bien sûr, ils aiment le basket. Bien sûr, ils connaissent le basket. Mais. Certains ont plus d'élégance que d'autres, je trouve, dans le sens où il y en a qui. Certains se remettent en permanence au cœur des choses. Et tu vois, une des choses que j'adorais, moi, avec Jeff Van Gundy, parfois c'était à outrance, mais il se permettait, par exemple, jamais de critiquer un choix stratégique, en fait. Il pouvait donner son avis, mais c'était jamais sous forme de critique. Ce qui m'insupportait chez Mark Jackson, c'est que systématiquement, elle allait dire: Ah, si ça avait été moi, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Et tu sais, des fois, je l'entendais commenter des matchs de Eric Spoelstra ou de coach comme ça, dire: Ouais, si c'était moi, j'aurais fait ça. J'allais dire: Mais mon pote,
C'était toi, tu serais pas en finale.
exactement, quoi. Donc, redescends un petit peu ou reformule les choses, quoi. Et voilà, et chez les consultants, je trouve que certains arrivent vraiment à. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de servir la soupe, ça ne veut pas dire que tu es obligé de dire que tout est fantastique, mais ceux que j'aime bien arrivent à mettre ça en retrait, et à vraiment à laisser parler leur analyse, leur pertinence, leur analyse, sans forcément avoir le besoin de se mettre en avant. Voilà, moi, c'est ça que j'apprécie le plus, je trouve, chez les consultants. Après, ça peut être entraîneur, joueur. C'est vrai que souvent, ça dépend des joueurs, en fait. En fait, ça dépend vraiment des joueurs, parce que tu vois, c'est pas étonnant qu'un joueur comme JJ Redick soit un bon consultant, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, bien sûr, avait du talent, bien sûr, était un athlète, voilà, un athlète hors du commun. Hein. Tu peux pas être dans les 450 de la ligue si t'es pas un athlète hors du commun, mais c'est aussi un basketteur qui avait besoin de savoir précisément, de connaître le plan de jeu sur le bout des doigts. Si JJ Redick n'avait pas eu son intelligence de jeu, n'avait pas eu ce besoin de regarder de la vidéo, de tout comprendre dans le détail, il n'aurait jamais pu faire la carrière qu'il aurait fait. Et donc forcément, ça développe des qualités, je pense, de lecture et d'intelligence de jeu qui sont pas les mêmes quand tu es un athlète tellement hors norme, que ce soit dans ton gabarit. Imaginons un mec, pour faire plus simple, un mec comme Shaq.
Exactement,
A
ce que
pas
j'allais
besoin
dire.
de connaître le jeu autant en détail qu'un gars de JJ Redick pour faire la carrière qu'il a faite. C'est ça que je veux dire. Ça veut pas dire que Shaq connaît pas le basket, mais les besoins sont pas les mêmes.
Sauf que chaque donne l'impression de connaître son basket. Et ça, c'est quelque chose de qui est marrant, mais qui peut paraître un petit peu pénible.
Ouais, je suis d'accord.
C'est-à-dire que chaque, il est quand même, il joue ce rôle, on va pas se mentir. Il est dans NBA en TNT, il est là, il joue le rôle du gars qui est sûr de lui, qui sort ses bagues, qui a Shaquille O'Neal, qui se moque un petit peu des autres, mais tout en gardant. Mais tu vois, il y a des joueurs, souvent les consultants, bah, c'est des joueurs qui ont fini dans les années 2000 et qui sont là et qui sont capables de te dire, de comprendre le jeu par rapport à leur jeu à eux, mais qui sont capables de s'enthousiasmer en disant, même si le jeu a changé, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Et ça, moi, mon consultant préféré, c'est Reggie Miller, pas pour rien, parce que il a déjà une tendresse vis-à-vis des joueurs. Et toi, tu parlais de la manière dont Jeff Van Gundy ne critiquait jamais des choix de coach. Reggie Miller ne critique jamais un joueur en méforme ou quoi que ce soit, parce qu'il sait qu'on peut ne pas y être, mais surtout la manière dont il sait que même si ce n'était pas son époque, même si ce n'était pas son jeu, la manière dont il s'enthousiasme sur Steph Curry, sur LeBron, sur même des jeunes joueurs, sur Anthony Edwards, sur Wemby. Bon, je te donne des joueurs qui auraient pu jouer à son époque. Mais outre l'élégance qu'il a, mais combien de fois on voit des images, tu sais, courtside où il y a des actions folles, et Reggie Miller, il explose, il tombe sur son gars, il vit ça de manière extraordinaire. Et à chaque fois que des gens le dépassent, tu vois, il est content, il va les enlacer. Voilà, c'est vraiment j'aime beaucoup la manière de faire de Reggie Miller, et c'était intéressant de les voir. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette émission qui a trop peu duré, je trouve, mais peut-être qu'ils ont fait le tour, ou qu'ils n'avaient pas le temps, ou que c'était Open Court sur TNT aussi, je crois, c'était Ornette Johnson qui menait ça, où tu avais des légendes NBA. Alors tu avais Reggie Miller, Steve Kerr,
Oui.
Shaquille O'Neal, qui racontaient leurs expériences, des anecdotes, leur première paire de chaussures. T'avais Isaiah Thomas, t'avais voilà, sur ça se chambrait de manière sympa. Il y avait Steve Smith aussi qui était souvent là, et ils racontaient voilà, leurs souvenirs de Jordan, de Magic, d'Intel, quelles étaient leurs idoles, pourquoi, leur signature move, le trash talking. Si vous avez l'occasion, allez regarder, c'est des émissions assez intemporelles, c'est pas sur l'actu, ça s'appelle Open Court, et ça c'est vachement bien, ça permet de voir un petit peu, et ça fait un peu écho à ce CQFR de la semaine dernière, de samedi dernier, où tu demandais à Chaï et Antoine, ou un auditeur avait demandé à Chaï et Antoine le top 5 des joueurs qu'ils aimeraient rencontrer pour justement discuter, anecdotes, etc. Et faisait penser un petit peu à ça, oui.
Ouais, bah, non, carrément, mais c'est vrai que Reggie Miller, mais c'est quelque part Reggie Miller, malgré ses qualités, c'était aussi un joueur qui se devait de connaître tout dans les détails, en fait, parce que finalement, bah, c'était pas un joueur si athlétique que ça, à l'échelle NBA, bien entendu. Donc tout ça, forcément, ça te force à. Tu sais, c'est pareil, en fait, si tu vois un mec d'1m80 qui arrive à être basketteur pro, quel que soit le niveau auquel il joue, hein, que ce soit en Pro A, Pro B, où vous voulez. Il a dû bosser plus que les autres et il peut pas ne pas connaître le jeu sur le bout des doigts parce qu'en fait, il a aucune marge d'erreur en fait. Il n'a pas de marge d'erreur possible. Alors effectivement, je te rejoins sur Shaq quand tu dis qu'il connaît son basket. Au bout d'un moment, quand ton seul truc c'est de dire ouais, mais moi j'aurais fait ça, ouais, mais toi tu faisais 2m18, tu es un machin comme on n'en a jamais vu depuis. Ça veut pas dire que la manière dont toi tu procédais, elle colle pour tout le monde en fait. Effectivement, c'est la grande limite. Et je pense que là où tu as mis le doigt, ce sur quoi tu as mis le doigt avec Reggie Miller, c'est cette capacité à se mettre à la place des autres. Et peut-être à reprendre du recul pour analyser un petit peu les situations. Et c'est vrai que, comme toi, tu vois, parfois, c'est des combats d'arrière-garde, quoi. Des joueurs d'anciennes époques qui vont continuer à te dire, ouais, mais le jeu, il est moins dur. Tu dis, ok, le jeu, il a changé, en fait. On va pas rester là-dessus pendant 20 ans. Tu dis que le jeu, il est moins dur, que les défenses. Effectivement, les défenses sont plus les mêmes. Mais par contre, les joueurs d'aujourd'hui sont capables de faire des choses que vous n'étiez pas capables de faire. Donc, on n'est pas obligé de dire le jeu, il était mieux avant, le jeu, il est mieux maintenant. Je pense que d'un point de vue technique, le jeu a jamais été aussi développé qu'aujourd'hui. Effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a trop de points marqués? Est-ce que les défenses peuvent reprendre? Ça, c'est des questions qui sont OK. On peut se poser ces questions-là, mais par contre, je pense qu'en termes de voilà, la qualité du jeu, est-ce que les joueurs sont capables de proposer maintenant, techniquement, je pense que c'est sans commune mesure avec ce qui a pu être proposé par le passé. Ça ne veut pas dire que le jeu en lui-même est mieux, mais par contre, c'est un peu fatigant, je trouve, les consultants, effectivement, qui sont tout le temps à ramener les choses à leur époque. Au bout d'un moment,
C'est
l'époque,
toujours
elle
les mêmes.
change. Voilà.
Si on écoute, c'est toujours les mêmes, hein, sur les Paul Pierce, les machins, les Shaq, et moi, Rudy Gobert, et il est à 15 et 10, et que si moi j'aurais eu ce contrat-là, ouais, mais le mec, Wilt Chamberlain, il prenait le bateau pour aller en Europe, et il voyait, tu vois ce que je veux dire, il prenait le bateau, trois calèches et six chevaux, quoi. Donc, arrêtez, pour 18 $ par jour, tu vois ce que je veux dire, donc pour arrêter de. Merde, c'est chiant ça. Et ça les rend. Ils se rendent pas de compte qu'ils se décrédibilisent eux-mêmes. Alors, bon, il y a du buzz là-dedans, le fait de dire que Bol Bol, il est meilleur que Louis Victor. Bon, bien sûr, il le sait. Je peux pas croire que Shaq, il est tout sauf con. Il le sait très bien que c'est pas le cas. Et du coup, ça fait parler. À chaque fois, il se fait chambrer. Bon, voilà. Mais il y en a certains, tu vois, ils sont devenus consultants, mais ils sont peut-être à cause de ça. Alors, je ne dis pas qu'il est comme ça, mais tu vois, des gars comme Kenny Smith, finalement, ils sont restés cantonnés. Bon, ils ont du taf avec leur émission, bien sûr, mais c'est des types qui n'ont pas forcément sauté le pas de faire C'est un autre métier, hein, de faire du commentaire, d'être consultant, hein. Ça,
Ouais.
on peut le demander, voire on peut poser la question à Rémi ou à Xavier, au Sion, que quand ils étaient simples consultants, enfin, avec Georges Eddy, et que d'un coup tu te retrouves en première ligne avec Jacques Monclar, ça ne doit pas être la même histoire, hein.
Ouais. Allez, on parlait de JJ Redick cette semaine. On s'en parlait ensemble
J'ai
en
toujours pas
off.
écouté.
Voilà, il y a JJ Redick qui a lancé un nouveau podcast avec LeBron qui s'appelle Mind the Game. Le premier podcast est sorti mardi. Et voilà, c'est disponible sur YouTube. C'est aussi disponible sur les plateformes de streaming. Donc moi, j'ai regardé ce premier épisode. J'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Ah oui.
L'idée, ouais, j'ai trouvé ça vraiment
Super.
intéressant, honnêtement. Je suis curieux de voir le deuxième parce qu'en fait, JJ Redick explique que dans le deuxième épisode, ils sont rentrés vraiment plus encore dans la stratégie. L'idée, c'est une discussion ouverte entre guillemets entre JJ et LeBron, dans lequel alors, le premier épisode c'était se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait un grand joueur, et une question qui est au cœur de ça, c'est ce sur quoi on a fait tout un MOOC, notre numéro 10 là sur le playmaking, c'est la notion de QI basket. Justement, qu'est-ce que c'est que le QI basket, est-ce qu'on est avec, est-ce que c'est quelque chose qui se développe, est-ce que ça s'apprend, c'est un peu au cœur de leur discussion. Et malgré tout, ils vont décortiquer un certain nombre d'actions, de situations, des lancements de jeu par exemple. Il y a un moment ils parlent de corne. À un moment, ça parle du pick and roll sur le côté, de comment tu dois le jouer, qui est-ce que ça permet de libérer. Et j'ai trouvé que c'était assez clair, honnêtement. Il y a des petites fiches en fait indicatives où ils expliquent en début de podcast, où JJ Redick explique bah, quand on va parler de horn, donc corne en français, bah, c'est ça que ça veut dire. Il y a une petite explication marquée. Et après, pendant la discussion, ils te mettent des exemples avec des images en fait qui illustrent les propos de LeBron et de JJ Redick. Donc je trouve ça vraiment intéressant. J'ai hâte vraiment de voir le deuxième, puisqu'ils disent qu'ils vont aller plus dans le détail pour voir jusqu'où ça va dans le détail. Moi, je t'avoue que tous ces aspects-là m'intéressent beaucoup, stratégie, etc. Donc j'ai hâte d'en savoir plus.
Ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est un peu ce que fait, et on les salue, les copains de la First Team, hein, dans le First des shows, quand ils font leur palette, où ils expliquent vraiment, ça permet de comprendre ce dont ils nous parlent quand ils parlent des analyses, le jeu de certains joueurs. Bah là, on voit bien, ils prennent une phase de jeu et ils la développent avec plusieurs joueurs, plusieurs types d'actions. Donc c'est toujours passionnant. Faut s'y tenir, voilà, c'est toujours pareil, mais une fois qu'on rentre dedans, en plus on a l'impression d'être dans le secret des dieux, là, c'est toujours agréable. Allez, moi je te parle d'une autre voix, une des premières que moi j'ai entendues, parce que c'était une des premières cassettes vidéo que j'ai poncées, c'est Chick Hearn, bien sûr, la
Ah
voix
oui,
mythique
David Kurtz.
des Lakers pendant 41 ans. J'ai noté un chiffre, non, il a commenté d'affilée 3338 matchs.
Oh la machine. Mais lui aussi, tu parlais de calèche et d'être payé 18 $ du match. Au début, ça
Je pense
devait être
qu'en
pas loin d'être
65,
ça.
ouais,
Hein. Ouais.
il devait pas y aller forcément en première classe quand il allait, il couvrait les Pistons quand il allait avec les Lakers. Voilà, sa voix, c'est en sens slam dunk, comme ça, c'est pour moi, c'est les premières voix vraiment reconnaissables. Après, il avait fait des apparitions télé dans plein de séries. Voilà, c'est toujours un personnage ultra attachant qui est décédé, je crois, hein, oui, il me
Oui,
semble, hein, qui est décédé,
il a sa statue lui aussi devant
il a sa statue devant
le crypto,
le,
je sais
on
plus
sait
comment il
plus
s'appelle.
comment,
Ouais.
crypto.com
Voilà.
Arena, voilà. Au-delà de, alors moi, j'ai jamais attaché une importance particulière, mais les voix de ces commentateurs, et Georges notamment, on les a eues aussi dans des jeux vidéo, il me semble.
Oui.
Pour ceux qui jouaient, c'était des voix aussi qui accompagnaient nos parties fictives sur les alors il y avait plein de regarde, c'est pas un média, mais quand même, mais les boom shakalaka, les voix d'NBA Jam, etc., ça nous accompagnait sur les terrains aussi, donc c'est plutôt marrant.
Ouais, d'autant que c'est devenu des références culturelles à part entière. Hein.
Bien sûr, c'est ça.
On retrouvait ça dans des chansons, dans des trucs et tout. C'est vrai que ça a beaucoup marqué. Moi, une des voix et des plumes aussi, moi, qui m'ont beaucoup marqué, c'est celle de Bill Simmons, journaliste américain, voilà, qui a vraiment été précurseur, là. Son podcast, là, The BS Report, je crois que c'était comme ça que ça s'appelait au tout début. C'était un des premiers podcasts. C'est comme ça que j'ai découvert ce qu'était un podcast, tout simplement. Il était hyper précurseur là-dessus, sachant que lui, son positionnement de base, c'était de ne pas être un journaliste. Il avait une colonne à lui qui était sur ce qui s'appelait la page 2 d'ESPN. C'était une page un petit peu alternative, et sa colonne, c'était celle du sports guy, donc le fan de sport, et il commentait tout un tas de trucs avec énormément d'humour. Là aussi, quel claque en fait pour moi de me rendre compte que, bah, sur un site aussi sérieux qu'ESPN, tu pouvais traiter le sport avec de l'humour, avec des références culturelles. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous a beaucoup nourris. Ses podcasts, maintenant, après, il a monté un site qui était vraiment passionnant, qui s'appelait Grantland. C'est là que Zach Lowe, dont je parlais tout à l'heure, a écrit ses premières longues colonnes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et puis maintenant, ça s'appelle. Il a monté son média depuis plusieurs années, qui s'appelle The Ringer, qui est vraiment une plateforme, notamment, de podcasts dans lequel il traite tout, mais d'un point de vue, c'est une espèce de, quelque part, peut-être de hoop culture, mais de sports culture très large, dans le sens, il y a des re ils vont faire des commentaires, enfin, il y a des choses sur le cinéma, sur la musique, sur les séries, sur tous les sports que vous pouvez imaginer. Et voilà, il a toujours bien entendu son podcast, Bill Simmons. Alors, parfois, le personnage est un peu agaçant, quand même, avec ses certaines, comme toujours, hein, quand on écoute trop une même personne, on commence à être fatigué. Hein. Je pense que c'est toi, à la fin de chaque Hoop Culture, Pierre, où tu dis, bon, j'arrête avec ce gars-là, il me fatigue trop. Il faut que je trouve un autre collègue pour faire ça. Mais Bill Simmons, voilà, quand même, là aussi, moi, ça m'a beaucoup marqué, ses articles, ses papiers en détail, ses podcasts aussi. Un personnage qui peut être fatigant, mais qui est aussi attachant par pas mal de côtés, et qui avait à un moment fait un truc, ça a duré malheureusement qu'une année, que j'avais vraiment adoré. C'était lui et Jalen Rose avaient fait des espèces d'interviews pré-draft avec des candidats. C'était la draft d'Anthony Bennett, de mémoire.
La meilleure.
Voilà, la meilleure.
Puis il y a Giannis
Exactement.
dedans, tu vois.
Voilà, exactement. Et c'était assez sympa, en fait. C'était des discussions avec des prospects qui se présentaient à la draft, un petit peu sous forme d'entretien d'embauche, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, quoi. C'est dommage que c'est jamais été. Après, bon, il s'est fâché avec ESPN, il a claqué la porte, mais c'était une des choses, par exemple, qu'il avait faites, que j'ai trouvé vraiment intéressante et innovante.
On parlait de Georges Eddy, c'était dur de rentrer de prendre la suite. Moi, j'ai trouvé que bah, David Cosette, on peut pas ne pas en parler de David Cosette. Parcours particulier aussi, parce que je crois qu'il était parti vivre aux États-Unis, dans le Tennessee. Il avait essayé de rentrer dans l'équipe de basket, mais il n'avait pas de niveau, donc il était entré en équipe de foot et ils avaient joué, je crois, la finale du State Championship à l'époque. Pionnier de l'aventure Eurosport, du basket d'Eurosport. Pionnier également de plein de médias comme Sport Plus, comme l'équipe du soir. Voilà. Des phrases mythiques, Thomas Hurtel, donne-moi ton short, des trucs comme ça. Un enthousiasme sans fin, sans fin. Voilà, moi, c'est ça que je crois qu'on attend chez les bons humains, c'est d'arriver à s'enthousiasmer pour Roanne Rouen comme pour une finale NBA ou une finale d'Euroleague. Je trouve que avec Stephen Brun, ça marche plutôt pas mal. C'est assez marrant leur duo. Donc voilà, David Cosette, quand même, je souhaitais lui rendre un bel hommage, parce qu'en plus, c'est des gars qui ont commencé super tôt, je crois, qui commentent pour Eurosport la Dream Team à Barcelone à 20, 21 ans ou un truc comme ça. Donc, il est tout jeune. Il sort à peine des écoles de journalisme. Donc, bravo à lui. Quelle belle carrière, en tout cas. Très, très belle carrière. Et là, j'ai appris là qu'il était. Enfin, je savais qu'il avait un hôtel dans le sud de la France, ailleurs, qu'il a récemment vendu. Voilà. Mais. En dehors de ça, il y a quand même des moments de médias. C'est les conférences de presse, quand même, parce qu'on en avait parlé un petit peu pour préparer ce podcast. Quelles sont, toi, parce que les conférences de presse qui t'ont vraiment marqué, où tu te revois pas le moment où tu l'as appris, mais en tout cas, tu as les images clairement en tête de la manière dont ça s'est déroulé.
Alors, la première qui me vient en tête, c'est pour le coup, je ne l'ai pas vécu en direct, mais c'est vraiment la première qui me vient en tête, c'est celle où Magic Johnson annonce sa séropositivité en 91 et prend sa retraite, parce que bah, revécu au travers de documentaires, vu aux infos, voilà, à nombreuses reprises, c'est surtout la stupeur que tu vois dans les yeux de ses camarades.
Ah oui.
Vlad et Divac, tout ça, qui sont quasiment au bord des larmes. On en parlait il n'y a pas longtemps, parce qu'à l'époque, on pensait que c'était un arrêt de mort, quoi. On pensait que c'était
Bien
les
sûr.
dernières images quasiment qu'on allait voir de Magic Johnson. Donc, ouais, il y en a d'autres, on va pouvoir revenir sur les autres, mais c'est celle qui me revient en tête tout de suite, ouais.
Oui, moi aussi, c'est la toute première, celle-là et celle de 93, d'octobre 93, de Jordan qui dit, qui s'en va, où on pourrait presque à la limite réciter par cœur, tellement on les a vus, ces images, ce qu'il était en train de dire. Même moi, parfois, quand j'ai pas envie de faire un truc, j'ai envie de dire When I lose, the sense of motivation. Des trucs comme ça. C'est When I lose. Des trucs vraiment qui restent dans ta tête à vie, quoi. Moi, il y en a une qui, y en a deux qui m'avaient marqué. C'était celle d'Allen Iverson qui parle d'entraînement. Parce qu'un type lui pose la question sur un entraînement. Il dit 20 fois le mot practice. C'est aussi lunaire que génial et que représentatif du bonhomme, je trouve. Mais une qui m'avait éclaté, moi, c'est celle de Meta World Peace, Game 7 contre Boston, quand il arrive ivre mort, il a bu 15 bouteilles de champagne, il dit Kobe lui a passé la balle, Kobe never passed me the ball, il crie comme ça, avec ses enfants et tout, il touche tous les micros, il est là, il est comme ça dans le micro, il comprend pas ce qui se passe. Quelle rigolade, je pense que les gens s'en rappellent.
Ouais, c'est clair. Et tu sais, c'est marrant parce que dans cette conférence de presse, la première personne qui l'avait remercié, c'était sa psy. Et tout le monde rigole dans la salle à ce moment-là. Et on voit en fait quand même à quel point la société a bougé sur ces questions de santé mentale, en fait. Tu vois, je veux dire,
Personne
aujourd'hui,
rigolerait aujourd'hui.
il y aurait la même truc. Ouais, personne rigolerait. Ça
Ouais.
serait plutôt le côté, ah, la belle histoire, etc. Donc, je vois très bien les images dont tu parles de Meta World Peace. C'est, oui, clairement, clairement. Et l'autre truc, alors moi, c'est. On y reviendra une prochaine fois, je pense. Mais c'est pas une conférence de presse, mais c'est une de journaux. C'était pour le retour de Jordan, son retour aux Wizards, quand il avait annoncé qu'il revenait. Là, il a fait la une des journaux le 11 septembre 2001. Et moi, il se trouve que j'étais à New York à ce moment-là.
Ouais.
Et en fait, ouais, et dans la ville silencieuse, déserte, enfin. Ambiance folle, des espèces de, tu sais, il y a le Village Voice et d'autres journaux que tu peux acheter directement dans des, comment dire, dans des, les journaux sont dans des espèces de boîtes en fait fermées mais transparentes. Tu mets
Ouais.
une pièce et tu prends un journal.
Ouais.
Et en gros, il y avait ces trucs avec à la une Jordan qui revenait, sauf que bien entendu l'information qui occupait les esprits de tout le monde, c'était pas du tout celle-là. Mais j'ai ce souvenir de une, du coup, tu vois, de voir ça dans les rues de New York de manière un peu, enfin voilà.
Et t'étais à
On
New
était un
York
peu azimuté.
le jour du 11 septembre.
Ouais. On en reparlera
On
une
va
prochaine fois, Benjamin.
dans un prochain épisode sur la théorie du complot, on dira un petit peu comment c'est possible que Théo ait été sur place comme par hasard.
Comme
Comme de
par
par
hasard.
hasard. Non
C'est
mais
ça.
ça, oui, par contre, oui, j'ai hâte que tu nous racontes. Enfin, hâte, c'était pas des bons souvenirs certainement, mais quand même quelque chose de marquant, j'imagine.
Ouais, car plutôt. Un
Ouais.
petit peu.
Moi, une dernière conférence de presse qui m'avait un petit peu touché, c'était Russell Westbrook, qui était aux Lakers et qui était au fond du trou médiatique parce que tout le monde se foutait de sa gueule et c'était un peu dur. Et il y a une journaliste, je crois, qui est japonaise et qui lui dit combien il a bien joué, combien ce qu'il a fait était bien. Et lui, il regarde tout. Il se met comme ça, il fait.
Dites-moi plus.
Vous avez entendu? Mais c'est vrai. Mais merci. Et je reste persuadé que ce type est un type en or, d'une gentillesse absolue et un mec super. Et tu voyais un gamin là, tu voyais un lycéen à qui on disait, t'as bien travaillé là, c'est plutôt pas mal, alors que tu te fais bullied par tous tes potes qui disent on n'y arrive pas, c'est certainement de sa faute au gars qui est là parce que. Et lui il disait rien. Et là d'un coup on lui fait des compliments. Il était content. C'est très touchant. Regardez, tapez sur YouTube Westbrook interview. Vous allez tomber dessus forcément. C'est assez assez sympa. C'est vraiment le côté très attachant du personnage.
Ouais, carrément, carrément. Mais moi, je reste dans la team Westbrook, quoi qu'il arrive.
Moi aussi, Team Oiseau, Team Animal. On va clore là-dessus, bah, parce qu'on pourrait encore en parler pendant un bon moment. Et puis on va passer à nos coups de cœur, nos coups de cœur, pardon.
Ouais, eh ben écoute, avec plaisir. Alors, je vais commencer par un livre que j'ai pas encore lu. Simplement, je viens de le recevoir, donc je vous le présente. Parce qu'on parlait de consultants et de conférences de presse, je vais t'expliquer tout ça. Donc, c'est un livre d'Alain Weiss, donc l'ancien entraîneur de basket Alain Weiss, qui a notamment été sélectionneur de l'équipe de France. Ce livre qui s'appelle Mes secrets de coach, les anecdotes, les expériences, les réflexions tirées de ma vie d'entraîneur de basket. Ça sort aux éditions Solar, donc je ne l'ai pas encore lu, mais je vais me dépêcher de le lire. Je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai lu. Personnage que je trouve intéressant, Alain Weiss, et on parlait de conférences de presse, moi il y en a une à laquelle j'ai assisté quand j'étais encore jeune stagiaire journaliste, c'était celle justement d'Alain Weiss et de l'équipe de France pour annoncer le retour de Tariq Abdoulouahed en sélection. J'avais été envoyé par Basket News pour couvrir ça, et c'était un moment qui m'avait quand même bien marqué parce que c'était intéressant. L'équipe de 2003 à laquelle Tariq Abdoulouahed a rejoint pour l'Euro, ça reste l'une des équipes de France, si ce n'est l'équipe de France la plus terrifiante que j'ai vu sur un terrain, monstrueuse, et malheureusement, voilà, l'aventure n'a pas été jusqu'au bout. On vous en parle dans un article, vraiment, c'est un de mes articles préférés qui a été publié dans le MOOC Reverse. C'est dans notre MOOC numéro 9 sur l'année 2003. Il y a voilà, Frédéric qui a fait un article, un papier incroyable sur cette équipe de France. Donc voilà, ça c'est mon premier coup de cœur. Le deuxième coup de cœur, c'est pour le coup, c'est quelque chose que j'ai poncé à l'époque, mais qui a été réédité récemment. Pierre, je pense que tu, enfin c'est pas, je pense, je suis sûr que tu connais ce disque. Voilà, c'est le premier disque, premier album solo de DJ Mehdi, The Story of Espion. Donc c'est comme ben voilà. Si vous connaissez DJ Mehdi, bah, il y a de l'électro, il y a du rap aussi, il y a un petit peu, il y a tout un tas de choses vraiment, vraiment chouettes, des invités. C'est la première fois, je crois, que ce disque qui était sorti en 2002 a été réédité. Voilà, j'ai trouvé ça tout simplement à la Fnac pour le coup. Je pense que vous pouvez le trouver sans problème si ça vous intéresse. C'est vraiment un album que j'ai beaucoup aimé, celui-ci. Et puis, tendresse forcément pour le regretter, DJ Mehdi.
Ouais, avec une belle couverture. Moi, j'en ai plein des coups de cœur. Alors, j'en ai un. On va commencer par de l'image, puisqu'on parlait de médias. J'ai vu un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Greatest Night in Pop.
Ah.
Tu l'as vu?
Non, non, pas encore, pas encore.
Alors,
Justement, je suis ravi que tu nous en parles.
documentaire sur la nuit de l'enregistrement de We Are the World. La chanson intemporelle de USA for Africa. Ça s'attache pas forcément à la mise en place du truc, ça dure 5 minutes, la mise en place de l'événement, mais de l'événement en soi-même. Ils avaient pris des caméras et en fait, on apprend mais 100 000 trucs. Déjà, ils sortent pratiquement tous d'une cérémonie de remise de prix, justement, qui est présentée par Lionel Richie, qui est un des instigateurs du projet avec Michael Jackson. Donc, Lionel Richie repart avec sa tenue de gala directement dans les studios D&M pour enregistrer ça, parce que Quincy Jones l'attend, et arrive 40 superstar. Alors, il y en a beaucoup que je connaissais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de. Il y a du monde de la country music, il y a du monde du rock de l'époque, des années 80. C'est 100% américain. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être que vous aussi, vous ne connaîtrez pas forcément. Mais il y a surtout la réaction de tous ces gens qui, pour beaucoup, se retrouvent dans la même pièce que des monstres sacrés. Alors, ça va pas être. Il y a Shilahi qui est la batteuse de Prince, qui sent qu'elle a servi un petit peu d'appât et que ça n'a pas marché, elle est un peu vexée. Mais il y a Cyndi Lauper qui arrive et qui se retrouve avec soudainement Smokey Robinson, Bruce Springsteen, Bob Dylan dans la même pièce, Harry Belafonte, bon, Michael Jackson bien sûr, mais Quincy Jones en face d'elle. Bon, et ils sont tous, et tu les vois, parce qu'il y a le côté choral, bien sûr, quand ils reprennent le refrain. Et après, une fois que le côté choral est fini, il y a 80% de tout ce monde-là qui s'en va. Hein, parce que là, c'est après la cérémonie d'ouverture, donc de remise de prix. Donc, il est minuit, 1 heure, 2 heures, c'est jusqu'à 7 heures du matin. Hein. Et donc, tu as tous les gars qui vont commencer à faire leur solo, tu vois. Et tu les vois ces artistes qui sont non qui chantent devant 30 000 personnes se liquéfier de dire une phrase parce que à côté là t'as Dylan qui attend, Springsteen qui attend, t'as Huey Lewis qui est en panique complète, qui sait même plus sortir une note, et c'est marrant, et t'as Bob Dylan qui est pétrifié.
Ah bon?
C'est-à-dire, tu le vois, il est devant son micro, il est livide, parce que c'est des types qui travaillent seuls, tous ces gens travaillent seuls, tu vois, et là, ils sont tous là, il y a tous Gotha, et en fait, tu te rends compte que le génie ultime, et le gars qui fait que ça fonctionne, c'est Stevie Wonder, qui, à la manière tu disais, des joueurs d'1m80, lui, il a un handicap aussi, qui est le sien, il a l'oreille absolue, il prend Bob Dylan et il l'imite à la perfection, c'est-à-dire il prend le timbre de voix de Bob Dylan et il lui dit voilà comment tu dois chanter et il chante à sa place, enfin avec la voix. L'autre mort de rire de se rendre compte qu'il ne sait pas s'il se fout de sa gueule ou pas, et du coup se détend. Ça dure 1h30, c'est incroyable, c'est vraiment c'est du bonheur, c'est le meilleur truc que j'ai vu. Tu pars de là, tu as le smile, tu as cette putain de chanson dans la tête pendant une semaine, on s'en fout, mais le fait de se dire, nous on s'est dit ça a fait une prise et tout, mais pas du tout. On voit c'est un pan de l'histoire de la musique qui est là. Bon, il en manque certains qui n'étaient pas là, les Marvin Gaye, les Prince n'étaient pas là, mais tu vois, Michael Jackson, il arrive, lui, une fois, hein, une prise. Bon, c'est lui qui l'a écrite, c'est lui qui avait envoyé les démos, ils ont envoyé des cassettes. Oh, c'est fou. C'est une autre époque, mais de retrouver tout ce monde en même temps, ce qui ne se ferait pas aujourd'hui, puisque j'imagine chacun enregistrerait chez soi, enverrait des pistes séparées. Oh, quelle belle. Et de voir qu'ils ont tout filmé, tout documenté, et que ça a mis tant de temps à sortir, c'est fou.
Ouais, je me le note d'autant plus que je l'avais repéré, mais là, tu m'as trop donné envie. Je vais mater ça obligé.
Et puis des choses à lire. Alors moi j'ai plein de trucs à lire pour vous. On parlait de grand homme inspirant. Voilà, moi le magazine Le 1 que tu connais certainement, qui a sorti un numéro spécial sur Robert Badinter, magnifique, avec des écrits de Victor Hugo sur le. Il y a une affiche, la grande affiche originale de l'abolition de la peine de mort en 1960, de politique de demande d'abolition de 1979 en couleur. C'est alors attends, je vais essayer de te montrer ça en essayant de pas l'abîmer, tu vois. Bon, tu l'accroches pas dans ta chambre, hein, la guillotine là, parce que t'as pas très envie. Mais tu vois, regarde quand même.
Ah oui.
Tu vois, c'est contre la peine de mort, voilà. Ouais. Donc il y a plein de beaux textes de philosophes. C'est un super magazine, le 1. Donc je vous conseille 4,90€ pour quelque chose à garder bien précieusement pour montrer éventuellement à vos enfants plus tard.
C'est Follon qui a fait l'affiche. Tu sais qui a fait l'illustration? Je te pose une colle en direct, là, ce qu'il ne faut jamais faire.
Alors, j'en ai aucune idée, mais on va regarder. En bas. Oui, c'est bien ça.
C'est ça, oui, on reconnaît son style. Ouais, superbe. Ouais. Incroyable.
1979. Association française contre la peine de mort, 14 rue de Vaugirard. Voilà, avec le chapeau de la justice par-dessus. Extraordinaire bande dessinée que je vous conseille.
Oh, sur Robert Johnson.
Ouais, les derniers jours de Robert Johnson, incroyable, dessin superbe sur justement ce chanteur de blues et ses derniers jours sur son arrivée, le fait qu'il ait traversé le pays pour arriver au Carnegie Hall de New York, passer une audition qu'il ne passera jamais, et il traverse le sud des États-Unis avec tout ce que ça comporte, et puis tous ces textes magnifiques de blues, c'est magique. Voilà, les derniers jours de Robert Johnson, c'est une pure merveille. Et si vous aimez les voyages initiatiques du jazz comme ça et du blues, je vous conseille ce livre de Claude McKay, qui est un des grands auteurs de la Harlem Renaissance, qui a écrit ce livre dans les années 30. Enfin, ça se passe dans les années 30 à Marseille, avec un joueur de banjo, qui s'appelle donc Banjo, qui crée un orchestre qui retrouve certains de ses amis noirs américains. Et voilà, c'est des pérégrinations dans le Marseille du début du siècle dernier, dans un grand port, avec les arrivées de bateaux, de militaires, pas de militaires. Voilà, ils sont à moitié clochards, ils sont dans un Marseille que Claude McKay avait adoré, voilà, dans le Marseille de 1929, plus exactement. Et donc voilà, c'est magnifique. Pareil, sur le jazz, le blues, et tout un pan de la culture noire américaine, la Harlem Renaissance à son paroxysme avec ce livre Banjo de Claude Maquet que je vous conseille, tout comme ce Hop, les derniers jours de Robert Johnson. T'as vu la belle couverture en plus.
Ouais, magnifique, super ces références. Tu peux nous raconter la légende peut-être qui entoure Robert Johnson, pour les gens qui ne connaîtraient pas.
Bah, la légende, elle est. Alors, je ne vais pas vous raconter le livre tel qu'il est. C'est la quête d'un garçon qui veut. Alors, on a chacun sa légende, mais c'est la quête d'un garçon qui veut retrouver son père, qui apprend à jouer de la guitare en regardant ses idoles et qui. Bouffé par ses démons et par la perte de son enfant jeune surtout qui fait qu'il est à vif complètement voilà, en tout cas c'est cette traversée et il y a y a surtout c'est une course contre la montre parce que il y a donc des impresarios comme ça qu'on les appelait à l'époque qui arrivent de New York qui ont entendu parler de cet homme-là et qui viennent le chercher justement pour cette audition et justement pour même pas lui faire passer l'audition, pour directement lui faire faire ce spectacle à la gloire de la culture noire américaine qui passe du jazz au swing, etc., et au blues, et qui le cherche partout et qui le trouve pas parce que lui passe une vie de rien du tout à gagner un peu d'argent au chapeau dans des bars. C'est des histoires, tout comme dans le livre de Claude Maquet à Marseille, où le blues mêle c'est des vies de rien, de bagarres, de bars, de quelques sous, d'alcool, de femmes. Voilà, il se perd là-dedans, mais toi, tu as peut-être une autre manière de le raconter, mais en tout cas, moi, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais raconte-nous un petit peu la légende de Robert Johnson.
Non, mais c'est l'histoire raconte enfin, son talent de guitariste était tellement incroyable à l'époque que l'histoire raconte qu'il aurait vendu son âme au diable et que
C'est
c'est comme
ça.
ça qu'il aurait
Bah,
acquis
c'est ce qu'on
une
dit, c'était
telle
la musique
dextérité.
de Satan, et puis c'était quelqu'un qui, par ses drames personnels, avait un rejet de la religion et des églises qui fait que il avait toujours cette impression en tout cas, les gens qui le regardaient, les diseuses de bonne aventure, il suffisait qu'il y ait un chat noir qui passe pour qu'on dise que voilà, c'était des suppôts. Enfin, il jouait la musique du diable, voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux que
Ouais.
je te
En tout cas,
dise?
magnifique.
J'ai
Ce
mis
que
comme
j'avais...
ça.
Son histoire a déjà été mise en BD sous d'autres formats et je suis curieux de voir celui-ci parce que
C'est sur ces
il a l'air
derniers jours,
magnifique.
c'est pas les
Ouais.
derniers jours.
Ouais.
Attention, hein, il traverse tout le pays, donc c'est pas que les derniers jours, mais c'est vraiment on va dire, le dernier voyage. Voilà.
Ok. Très bien. On enchaîne avec les reliques. Qu'est-ce que t'en penses,
Allez,
Pierre? Parce
ouais, on y
qu'on a
va.
fait un peu long. Alors, je commence par une qui fait lien avec l'un de mes coups de cœur de tout à l'heure. C'est que en recherchant chez moi, regarde, c'est problématique hein, quand tu gardes tout. Regarde ce que j'ai retrouvé. Je vous parlais de l'album Espion. J'ai retrouvé une feuille d'autocollant, mais celle-ci, elle est d'époque en fait. Donc de 2002. Des petits stickers
Incroyable.
qui étaient sortis en promo pour le premier album de DJ Mehdi. C'était une collaboration entre le magazine Technic Art et puis le label De Label et Espionnage, la structure de DJ Mehdi. Donc j'ai retrouvé ça complètement par hasard la semaine où j'ai acheté le disque. Donc je trouvais c'était marrant comme petit.
Et puis ils sont super beaux, en plus ils sont un peu intemporels, là tu peux les utiliser partout.
Exactement, exactement. Donc je sais pas si j'aurai le cœur de m'en servir, mais voilà, c'est le problème quand tu gardes les trucs. Et le dernier truc, c'est l'autre chose, c'est ce livre, donc The Book of Basketball. C'est le livre de Bill Simmons dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, qui est un livre vraiment passionnant. En fait, l'idée de ce livre, c'est on est toujours avec la question du GOAT, est-ce qu'il y a un GOAT, etc. Et donc, en fait, il a mis au point un système, Bill Simmons, sous forme de pyramidal, en fait, où il va déterminer des tiers dans lesquels classer les joueurs au vu de leur palmarès, de leur performance. Donc, il y a une remise en contexte pour chaque joueur. C'est assez passionnant. Donc, là, il est sorti en 2009, je crois, ce livre. Il me semble que Bill Simmons, depuis, travaille à une nouvelle édition parce que forcément il y a des joueurs qui sont remontés dans la pyramide, à commencer par LeBron pour ne parler que de lui, où Steph Curry doit même pas être dedans du tout à cette époque-là. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a une belle remise en contexte et à chaque fois tu en apprends sur les joueurs en fait. C'est comme des mini-portraits autour de chaque joueur. où il va te raconter des anecdotes importantes ou ce que les gens pensaient de lui à l'époque. Il reprend aussi les statistiques pour les remettre en contexte. Là, je pense que maintenant, 15 ans plus tard, il va y avoir un gros boulot pour à nouveau remettre tout ça en contexte avec le tir à 3 points, le nombre de possessions qui est beaucoup plus nombreuse qu'au moment où il écrit ce livre. Bref, ce bouquin est passionnant. Je vous révèle pas qui est tout en haut de sa pyramide. Je vous laisserai le découvrir. Il n'y a pas forcément d'énormes surprises, mais par contre, voilà, c'est passionnant à lire parce que il y a un énorme boulot derrière de recherche sur les statistiques, d'analyse des statistiques, d'aller rechercher des anecdotes. Il y a une très belle préface signée par Malcolm Gladwell que vous connaissez certainement. Donc voilà, c'est un bouquin, c'est un pavé, mais voilà, qui est passionnant et c'est le genre de livre où tu sais, t'as autant à lire dans les notes de bas de page que dans le livre lui-même, et les notes valent le coup d'être lues parce que c'est pas simplement des références, c'est du complément d'information. Donc voilà, The Book of Basketball de Bill Simmons, dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment un bouquin à ne pas rater.
Très très beau. En plus, c'est un sacré pavé. Hein.
Ouais, bah c'est clair. Il fait, je vais te dire, ouais, dans les 700 pages, à peu près 700 ou 800 pages, c'est ça, 700 et quelques. Donc voilà. Prenez un petit peu de temps, emmenez-le en vacances avec vous. Tu vois, Bill Simmons, il fait tout jeune, tout pimpant. De l'époque. Bref.
Mais c'est bien parce que maintenant, quand on part en voyage aux États-Unis, puisque ça ne sert plus à rien de ramener des sneakers, puisqu'on ne trouve plus rien de formidable là-bas, au moins on peut ramener tout ce que vous laissiez comme place dans la valise. Vous pouvez prendre les bouquins, vous allez chez Strand à New York et vous allez en bas, là, vous trouvez tous les bouquins de sport. Moi, ma relique, est-ce que quand tu étais allé à Chicago, Théo, en 93, tu étais allé manger chez Michael Jordan?
Ah non! Non, non, il ne m'avait pas invité.
Bon, voilà, non, mais c'est son restaurant. Voilà, donc c'est l'avantage, comme toi, de tout garder. C'est un t-shirt du Michael Jordan restaurant. T-shirt. Tu vois, un restaurant à Chicago.
Incroyable, ouais.
Qui est à la fois avec Nike et le Jumpman. Voilà, où on y mangeait, pas ouf, pour avoir mangé. Ça, c'est les trucs américains ou à l'étage. En bas, tu as le sports bar. Déjà, quand on avait vu ça, on était comme des fous. Mais à l'étage, c'est des tables avec des grandes nappes. Tu es servi par des gars en gants blancs avec un micro comme ça qui te servent des macaronis with cheese. Ils sont connus. Tu as des ingénieurs de ketchup. Toi, tu es là. Tu tapes comme un taré sur ton ketchup. Attention, attention. Vous avez le numéro là. Il tape comme ça et il arrive à faire le petit zigouigoui de ketchup. Voilà, c'était incroyable.
Et mais par contre, je suis admiratif, Pierre Armand. À chaque fois que tu nous sors des t-shirts d'époque, ils sont dans un état mais impeccable. Tu sens qu'ils ont été repassés avec soin, repliés minutieusement.
Ouais, je ne les mets pas, j'ai peur que de certains de les laver et que tout s'en aille. Mais ouais, en tout cas, c'était vraiment une époque où on faisait des t-shirts avec bien épais, de bonne qualité.
Ouais, c'est clair, voilà. Parce que même le noir là de la photo, il est resté impeccable, quoi. C'est fou, pas du tout lavé, quoi.
Et nickel. Voilà. Qui n'existe plus, cet endroit. Maintenant, il y a des steakhouse de Jordan, je crois, à New York, dans divers endroits, Chicago aussi, mais il n'y a plus le Jordan sur LaSalle Street.
Bon, bah, j'espère qu'il va quand même s'en sortir financièrement, que l'année ne va pas être trop dure à boucler pour Michael Jordan, malgré la disparition de ce restaurant.
Il y a un train de vie quand même. Hein. Faut donc, il risque d'être obligé d'ouvrir 2-3 snacks pour éponger les dettes.
C'est ça. Bon, Pierre Armand, bah, merci encore. C'était un plaisir de parler avec toi. On fait de plus en plus long. Hein. J'espère qu'on n'empiète pas trop sur votre temps de famille du week-end. Et c'est parce qu'en fait, on a tellement de plaisir à vous parler semaine après semaine qu'on a du mal à se réguler. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Si vous voulez entendre la douce voix de Pierre Armand, allez jeter une oreille mardi dans le Hangtime Radio Show. On peut retrouver maintenant en podcast. D'ailleurs, on vous met les liens en description de ce podcast et de toutes nos émissions. N'hésitez pas à aller jeter un œil. N'hésitez pas à vous abonner aussi, il y a le compte Instagram. Est-ce que tu peux nous redonner l'adresse du compte Instagram de l'émission, Pierre Armand?
Alors c'est Hangtime underscore 888 underscore FM, voilà. Et cette semaine, on a reçu Théophile Omessaire qui nous a expliqué encore le lui. MOOC que vous voyez derrière lui, qui nous a raconté le MOOC, qui est une petite sélection très affûtée de ses coups de cœur hip-hop du moment.
Eh ben écoute, merci encore pour l'invitation de mardi dernier,
Non,
Pierre Armand. Je te dis à très vite. On vous dit à très vite dès la semaine prochaine, partout sur les plateformes, comme vous savez. On est ravis aussi d'avoir vos avis sur le thème du jour. N'hésitez pas à nous dire, voilà, s'il y a d'autres moments qui vous ont marqué, des médias, on en a certainement oublié. C'était bien entendu pas intentionnellement, mais dites-nous ce qui vous marque. On a même pas, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé des copains de First Team ou de Trash Talk, tous les
si, moi j'en ai
médias
parlé, j'ai parlé
podcast
de la palette.
actuels. C'est vrai, mais pour le
J'ai
reste,
peur
voilà.
qu'Erwan, il me tape après.
Non, mais je reprécise qu'en France, on a vraiment la chance d'avoir une diversité
Énormément.
et une qualité de médias basket
Énormément.
qui est fantastique. Voilà, nous, on savoure ça à sa pleine mesure. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire quels sont voilà, vos préférés, ceux qui vous ont marqué le plus. Et puis nous, on vous dit à très vite. Ciao à tous.
Salut.